Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 18 mars 1871, et la Commune fut. Le 19 juillet 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Très vite, les défaites se succèdent. L'empereur est capturé à Sedan le 2 septembre. La Troisième République est proclamée à Paris deux jours plus tard. Après une résistance héroïque, le gouvernement de la Défense nationale signe l'armistice le 28 janvier 1871. Refusé par le peuple parisien, il accroît la tension entre le gouvernement officiel dirigé par Adolphe Thiers et les forces révolutionnaires qui, le 18 mars, constituent un gouvernement insurrectionnel, la Commune de Paris. Après le transfert de l'Assemblée nationale à Versailles, le 10 mars, Thiers décide de récupérer les pièces d'artillerie regroupées à Montmartre. Il souhaite également occuper militairement la capitale. C'est donc par une histoire de canon que débute la Commune. En effet, la garde nationale possède 227 canons. Dont 200 ont été fondus durant le siège de Paris par les troupes prussiennes grâce à des souscriptions privées. Quand les Allemands occupent partiellement la capitale durant 48 heures, au début de février 1871, les Parisiens s'empressent de mettre ces canons en lieu sûr, hors de la zone d'occupation, au sommet de la butte Montmartre. Ils sont désormais sous la garde du peuple, organisés en fédération. Le 8 mars, les troupes régulières tentent de reprendre le parc d'artillerie détenu par la garde nationale. L'opération échoue. Le comité central de la fédération lance à l'armée gouvernementale ce manifeste révolutionnaire. Soldats, enfants du peuple, les hommes qui ont organisé la défaite, démembré la France, livré notre or, veulent échapper à la responsabilité qu'ils ont assumée en suscitant la guerre civile. Le peuple de Paris veut conserver ses armes, choisir lui-même ses chefs et les révoquer quand il n'a plus confiance en eux. Plus d'armée permanente, mais la nation tout entière armée. Le 15 mars, Thiers s'installe à Paris. Il ne peut tolérer semblable appel à la désertion. Le conflit entre les deux pouvoirs, celui des fédérés et celui du gouvernement légitime de la France, est inévitable. Au matin du 18 mars, les murs de la capitale sont couverts d'une affiche gouvernementale proclamant: habitants de Paris, depuis quelque temps des hommes mal intentionnés sous prétexte de résister aux Prussiens qui ne sont plus dans nos murs, se sont constitués maîtres d'une partie de la ville. Les canons dérobés à l'État vont être rétablis dans les arsenaux et pour exécuter cet acte urgent de justice et de raison, le gouvernement compte sur votre concours. Que les bons citoyens se séparent des mauvais, qu'ils aident à la force publique au lieu de lui résister. Parisiens, vous approuverez de recourir à la force, car il faut à tout prix que l'ordre, condition de votre bien-être, renaisse entier, immédiat, inaltérable. Pour récupérer les précieux canons, Thiers sollicite la force armée. Les Montmartrois sont réveillés à l'aube du 18 mars par le pas cadencé des fantassins de l'infanterie de ligne. Bientôt, toute la colline est tenue par la troupe. au centre du dispositif militaire le général Lecomte avec le 18e bataillon de chasseurs et le 88e bataillon de marche parvient au sommet de la butte Montmartre. Il bouscule les fédérés de garde et pénètre dans le parc d'artillerie. Là, il attend les attelages nécessaires à l'enlèvement des pièces qui tardent près de 4 heures. Les ménagères et les filles des hôtels meublés apparaissent dans les rues. Elles s'infiltrent dans les rangs de l'armée, proposant aux soldats de boire un verre avec elles. Le tocsin se fait entendre. Les unités de la garde nationale se rassemblent. Place Saint-Pierre apparaît un premier groupe de fédérés accompagné de quelques soldats déserteurs. Le général Lecomte fait croiser les baïonnettes. Les gardes nationaux avancent, menaçant, brandissant leurs fusils chasse-peau. Le feu est ordonné. La troupe refuse de tirer sur le peuple. La foule se précipite, embrasse les soldats et les entraîne vers les comptoirs des marchands de vin qui ouvrent leurs portes. Le général Lecomte est traîné vers l'auberge du Château Rouge, un ancien bal de la rue de Clignancourt, devenu le quartier général des fédérés. Là, il signe l'évacuation du quartier. Il est bientôt rejoint par un vieux général à la grande barbe blanche, le septuagénaire Clément Thomas, qui en juin 1848 avait commandé de charger la canaille. Au milieu de l'après-midi, les deux généraux sont exécutés. L'insurrection s'étend, les fédérés élèvent des barricades Faubourg Saint-Antoine et à Ménilmontant. Ils occupent le palais du Luxembourg où l'infanterie de ligne fraternise avec la population parisienne et marche sur l'hôtel de ville. Au ministère des Affaires étrangères, Thiers s'affole. Il replie le gouvernement à Versailles. La commune est proclamée. Le peuple de Paris se rassemble en liesse sur le parvis de l'hôtel de ville. Il crie sa joie, chante, danse et s'embrasse. Il se réjouit d'apprendre la création de communes insurrectionnelles, en particulier à Lyon, Marseille, Narbonne, Toulon et Limoges. Nous retrouvons Historama dans un instant pour la chronique littéraire « Un jour, trois livres » préparée par Emmanuel. Mais d'ici là, nous allons marquer une pause musicale avec Serge Lama au programme de notre émission, un titre de 1968, « D'aventure en aventure ».
Bien sûr, j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres habitudes. Et d'autres que toi sont venus les lèvres tendres et les mains nues, bien sûr. Bien sûr, j'ai murmuré leur nom, j'ai caressé leur front et j'ai partagé leur friston. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore. Bien sûr, du soir au matin blême, depuis j'ai dit je t'aime. Et d'autres que toi sont venus marquer leurs dents sur ma peau nue, bien sûr. Bien sûr, je leur ai dit toujours, je leur ai fait la cour, je leur ai même fait l'amour. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore. Bien sûr, j'ai joué de mes armes, j'ai joué de leurs larmes. entre le bonsoir et l'adieu, souvent pour rien, souvent par jeu, bien sûr. Bien sûr, j'ai redit à mi-voix tous les mots que pour toi j'ai dit pour la première fois. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure, parce que je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire préparée par Emmanuel et que j'ai plaisir à vous présenter. Un jour, trois livres, à commencer par « Les murmures du ciel » d'Éric Lhomme aux éditions Héloïse d'Ormesson. Voici une œuvre de fiction, une uchronie, à mi-chemin entre la légende et l'histoire, contenant des événements reconnus, peu connus ou controversés. C'est l'histoire de Jeanne d'Arc, mais une histoire différente de l'officielle, celle après son bûcher, le 30 mai 1431 à Rouen. Elle n'est pas morte, mais les voix ne lui parlent plus à l'oreille. Elle a décidé de partir libérer son demi-frère, le duc d'Orléans, emprisonné par les Anglais depuis 25 ans. Durant cette période, elle apprendra la vérité sur sa naissance, se mariera et serait probablement morte en 1446. Les murmures du ciel d'Éric Lhomme s'est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Le chevalier fracassé, toujours chez Héloïse d'Ormesson, s'est signé Colin Thibert. À Neuchâtel, le jeune Alexandre Joseph mène une vie dissolue, au contraire de ses deux frères, jusqu'au jour où un meurtre accidentel va le contraindre à l'exil. Arrivé à Paris, sous une fausse identité, il est obligé d'infiltrer pour le compte du lieutenant général de police le cabinet de Mesmer, médecin viennois à la mode, et les salons de Madame de Vaupertuis. C'est alors qu'un vieux marquis passionné d'optique s'amourache de lui et l'anoblit. Le désormais chevalier Vesperelli s'apprête à lancer une affaire prometteuse. Mais la prise de la Bastille vient bouleverser ses rêves de fortune. Un roman mouvementé entremêlant agents doubles, contrebandiers et nobles, pour le moins excentriques. Le chevalier fracassé de Colin Thibert, c'est chez Héloïse d'Ormesson. Et pour terminer cette chronique, Scandaleuse Sarah, la folle vie de Sarah Bernhardt aux éditions L'Archipel. Pour les 100 ans de la mort de Sarah Bernhardt, Elisabeth Gousseland retrace l'incroyable parcours de ce monstre sacré, une féministe avant l'heure, qui fit scandale à son époque. Nous la suivons dans les coulisses du Second Empire, de la Belle Époque et des années folles, grâce au truchement de Julia Barthé, grande sociétaire de la Comédie-Française, rivale devenue amie de Sarah. Une folle vie, truffée d'intrigues amoureuses, de scandales, de triomphes et d'exploits. Fille d'une demi-mondaine et d'un père qu'elle n'a presque pas connu, Sarah était vouée à un destin misérable. Mais la jeune fille aux yeux de chat se réinvente en idole. C'est l'Odéon et la Comédie-Française qui la révèle. Elle n'a pas 25 ans et le tout Paris est à ses pieds. Prête à conquérir le monde, elle part pour de gigantesques tournées, exportant le génie français sur tous les continents. Partout on la célèbre, on l'adule. Hommes et femmes célèbres succombent à son charme. Elle fait la mode. Sur scène, travestie, elle joue Hamlet ou l'Aiglon. Extraordinaire comédienne, elle est aussi peintre, sculptrice et metteur en scène. Sa devise est tout un programme. quand même. L'artiste se double d'une femme d'affaires avisée qui utilise habilement la presse, les mécènes et la publicité. Elle devient la directrice de son propre théâtre, le théâtre de la Porte Saint-Martin, celui de la Renaissance, puis le théâtre Sarah Bernard, rebaptisé Théâtre de la Cité sous l'Occupation avant de devenir le Théâtre de la Ville en 1968. Elle s'engage aussi dans les causes politiques de son époque, notamment lors de l'affaire Dreyfus, où elle prend ouvertement le parti d'Émile Zola. Scandaleuse Sarah de Elisabeth Gousselin, La folle vie de Sarah Bernard, c'est aux éditions L'Archipel. Ainsi se referme cette chronique littéraire. Merci à Emmanuel qui l'a préparée. Nous nous séparons en chanson avec Serge Lama, un titre de 1973, l'un de ses plus grands succès, Je suis malade. Et merci à Thomas qui a réalisé cette émission.
Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau, je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue, si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade. Quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis